Bon, non.
Bon. Très bien, merci.
Oui.
Le premier texte que je vous invite à méditer est dans le prophète Jérémie, au chapitre 20, les versets 7 à 9. Jérémie 20, 7 à 9. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Ah oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer violence, répression. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux outrages et aux sarcasmes. Quand je dis « Allez, je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom », alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Prisonnier de mon corps, je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, encore un texte, parole de Jésus, au chapitre 16, les versets 21 à 27. Voilà. 16, 21 à 27. Pierre vient de confesser sa foi dans le Christ, et voici la suite de l'histoire. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort, et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, Jésus, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan, tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, quiconque veut sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie ? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Seigneur, ta parole est la vérité. Fais-nous vivre, renouvelle-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. Alors, vous le savez bien, frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps, et on voit même en voyant ce qui se passe en Angleterre en ce moment, que c'est encore passablement vrai, les églises chrétiennes étaient respectées dans la société. Les visiteurs, par exemple, savaient faire silence quand ils entraient dans une église. Bien à la campagne, on aimait entendre les cloches sonner, comme on dit, l'église était au centre du village. Ce contexte, nous le savons bien, est en train de changer. Le centre du village, c'est quoi maintenant ? La salle des fêtes, peut-être ? La maison médicale ? Non, le supermarché plutôt. Enfin, voilà. Nous aurions tendance, peut-être, à regretter le temps passé. C'était le bon temps, comme on dit. À l'époque, c'était bien vu d'être un pieux chrétien. Aujourd'hui, on hausse les épaules. Et les textes de ce matin nous font entendre que, si ça se trouve, le confort de jadis ne représentait pas la situation normale de l'Église. Alors nous sommes un peu bousculés, N'aurait-il pas mieux valu nous boucher les oreilles ? Essayons quand même de les ouvrir encore. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Serait-ce donc si difficile d'être chrétien ? On préférerait certainement acquiescer aux idées à la mode, se soumettre à ses idées, avoir, comme le dit Jésus à Pierre, les vues des hommes, plutôt que d'être remué par le bouleversement radical provoqué par la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit dans la... Oui, là, vous vous ramenez encore comme ça au bureau et on sera obligé de vous suspendre. Portez sa croix. Est-ce que c'est bien vu encore ? Le prophète Jérémie, puis le Seigneur lui-même, indique un tout autre chemin dans ces deux lectures que le conformisme. Suivre le Seigneur, c'est certainement perdre une certaine manière de vivre, d'agir et de parler. Pauvre Jérémie, Seigneur, à longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. Mais qu'est-il donc arrivé à Jérémie pour être dans une telle situation ? Eh bien, le prophète a simplement été appelé par Dieu à devenir porteur de sa parole. C'est tout, rien de plus, mais rien de moins. Parce que cette parole est lourde à porter, comme une croix. Elle est exigeante pour le prophète, et elle est difficile à accepter pour ses auditeurs. « Chaque fois que j'ai à dire la parole, dit Jérémie, je dois appeler au secours. » Et clamer violence, répression. Oui, Jérémie doit dire des choses désagréables. Et cette parole fait violence au penchant des humains, elle appelle à la conversion. C'est jamais agréable d'être bousculé. Cette parole fait violence à leur recherche de fausse sécurité, à leur orgueil, à leur violence à eux, à leurs idolâtries, à leurs impuretés. La parole réprime les élans du péché en nous, l'amour si naturel que nous nous portons à nous-mêmes, et nous n'aimons pas cela. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Eh bien voilà une lutte, frères et sœurs. Voilà un véritable combat spirituel. Renouveler notre intelligence. Ça veut dire que ça ne nous est pas naturel de rechercher ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Il faut une grande force pour renouveler notre intelligence, pour retrouver en nous le regard de Dieu sur toute chose. Et surtout, être humain, surtout. Et à vrai dire, c'est impossible, sans le secours de l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit a empoigné le prophète Jérémie. Et sa force fait son œuvre, justement, dans la vie du prophète. Maintenant, à ce Jérémie, il lui faut manifester à ses contemporains la volonté de Dieu. « Seigneur, dit Jérémie, tu as abusé de ma naïveté. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. » Ah, Jérémie, vous savez, aurait préféré une vie tranquille. Il était jeune, avec un bel avenir devant lui, quand l'Éternel l'a appelé à devenir son prophète. Mais Dieu a réclamé sa vie. « Partout où je t'envoie, avait dit le Seigneur, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne, je suis avec toi pour te libérer. » Dieu a donc conquis Jérémie pour une vie nouvelle, alimentée par le seul désir toujours plus ardent d'aimer Dieu, de le servir et d'être sa voix. Un désir ardent, j'emploie ce mot à dessein, puisque Jérémie parle d'un feu dévorant. La parole de Dieu devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier de mon corps. Je m'épuise à le contenir, mais n'y arrive pas. Au fond de lui-même, Jérémie pressent que dans son obéissance réside en fait le secret d'une vie gagnée. Il expérimente en lui la victoire de Dieu sur son endurcissement. Mais il lui faut également convaincre son peuple de renoncer à ses égarements et de revenir à Dieu. Faudra-t-il vraiment que le Seigneur brise ceux qu'il aime pour que leur cœur s'ouvre enfin à son alliance? Alors Jérémie prophétise la cata, la catastrophe. Le roi de Babylone va venir avec ses armées. Le prophète annonce la dévastation. Et oui, effectivement, c'est toujours une catastrophe de se détourner du Seigneur, car lui seul est la source de la vie. Se détourner du Seigneur, c'est quitter la source de la vie. Mais on feint de l'ignorer, et les humains pensent autrement. C'est pourquoi Jérémie est persécuté. Il entend les propos menaçants de la foule contre lui. Et pourtant, sa plus grande souffrance n'est pas à l'extérieur, elle est au-dedans de lui. Il souffre pour Dieu. Sa souffrance est celle de son Seigneur, celle d'un amour trahi, d'un appel rejeté, d'une alliance bafouée. En Jérémie, d'une certaine manière, c'est déjà Jésus qui souffre. La vie de Jérémie n'est que pour le Seigneur. Elle devient le cri du Dieu vivant. « Tous se moquent de moi, » dit Jérémie. Son martyre annonce celui de Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus confirme dans le passage d'Évangile que je vous ai lu tout à l'heure. Il n'est jamais agréable d'annoncer que l'avenir est sombre. Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Il lui fallait souffrir beaucoup, être mis à mort. Mais le plan de Dieu serait-il la mort de son fils? Alors exprimons-le peut-être autrement. Le projet de Dieu était bien de venir en ce monde hostile, d'y venir dans la personne de son fils pour annoncer et surtout pour donner aux hommes leur salut, pour leur donner sa vie. Mais Dieu savait bien, hélas, que son envoyé, son fils, serait rejeté et mis à mort. Le Seigneur sait ce qu'il y a en l'homme. Le Fils de Dieu ne sera pas moins persécuté que ses prophètes. Et bientôt, nous dit Jésus, ses apôtres subiront le même sort. Pourquoi cela? Mais nous ne savons que trop. Dieu vient dans un monde qui ne veut pas de lui. Dieu vient dans un monde qui ne veut pas de lui. Dieu aime un monde qui le rejette. Dieu donne sa vie à un monde qui le met à mort. Telles sont les vues de Dieu. Ce que nous avons chanté tout à l'heure. Un roi qui pardonne. Un roi qui aime. Un roi qui donne sa vie. À toi de juger. Pierre a bien du mal à comprendre cela. Il a du mal à accepter le dessein de Dieu, l'impuissance choisie par le Christ. Il a du mal à accepter le rejet qui sera celui de Jésus et surtout ses souffrances et sa mort, et on peut le comprendre. Alors Jésus lui crie « Retire-toi, Satan. Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il est dur, Jésus, avec Pierre. Retire-toi, Satan. Oui, parce que c'est bien une tentation du diable qui revient auprès de Jésus, comme au début de son ministère. Nous nous souvenons que Jésus, je t'en avais parlé la semaine dernière, que Jésus avait librement, pendant ses 40 jours passés au désert, avant de commencer sa prédication du royaume, il avait renoncé aux tentations diaboliques de la richesse, de la puissance et du pouvoir. Et il sent bien que Pierre, là, est en train de le ramener à ses tentations. Non, Jésus, tu es le roi d'Israël. Il ne peut pas t'arriver ça. Jésus restera fidèle à ce renoncement absolu, à toute puissance, à tout pouvoir, jusqu'à la mort sur la croix. Sa vie, il la donne. Sa vie est offerte, quoi qu'il en coûte. Et Jésus démontre par là même que chaque vie retrouve son authenticité et la plénitude de son sens quand elle est donnée. Chaque vie prend son sens quand elle est donnée. Quand elle est donnée à Dieu et au prochain. Quiconque veut sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perd sa vie à cause de moi l'assurera. Perdre sa vie à cause du Christ, qu'est-ce que cela signifie? Perdre sa vie à cause du Seigneur Jésus, ce n'est pas faire exprès de rechercher les difficultés, la persécution, peut-être même le martyr. Si les difficultés doivent venir, elles viendront bien d'elles-mêmes. Ça, vous pouvez y compter. Jésus lui-même n'a pas recherché la mort. Il l'a acceptée. Il l'a acceptée comme une conséquence et même comme une nécessité de sa mission. Perdre sa vie, c'est rejeter une certaine manière d'être, comme ce fut le cas pour Jérémie, pour unir son existence à celle de son Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Il me tient la main. Eh bien, cette main, saisissons-la. Demeurez en moi comme je demeure en vous, dit le Seigneur. C'est la foi qui consiste à placer sa confiance en Christ seul, dans les petites et dans les grandes choses de la vie. La foi, c'est cela, donner sa vie au Christ. Prends ma vie, Seigneur, que ma vie ressemble à ta vie. Et puis nous chantons souvent, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Tu voulais nous le faire chanter?
Oui.
Parce que je l'ai prévu pour la Sainte Seine tout à l'heure.
Ah, bah, je pensais que c'était le moment.
Merci. Mais bon, on pouvait le faire. Voilà, ressembler à Jésus, s'abandonner entre ses mains, c'est déjà une certaine forme de mort, tant sont grandes nos attaches terrestres. À nos pouvoirs, à nos biens, à nos relations, à nos privilèges, à nos manies. Mais il s'agit aussi d'une résurrection, frères et sœurs, car vivre avec le Christ, c'est commencer une vie nouvelle dans la lumière de Dieu. Vivre avec Jésus, mettre sa foi en lui, mourir au passé pour vivre avec lui, c'est commencer une vie nouvelle dans la lumière de Dieu. Quel sera le terme de cette vie? Alors Jésus dit encore dans cet évangile, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Vous avez entendu? Il rendra à chacun selon sa conduite. Ouh là 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 là, mais alors nous sommes mal barrés, comme on dit. Nous sommes mal partis. Cette conclusion serait terrifiante si elle ne trouvait tout son éclairage dans la perspective justement de l'union à Jésus, de l'union au Christ. Car la vie éternelle, elle est déjà donnée quand on vit avec le Seigneur. Cette vie n'est pas notre œuvre, mais c'est la sienne en nous, c'est sa grâce. Le jugement ne sera que la révélation de ce que nous aurons été avec lui et de ce que nous aurons vécu dans la foi. Jésus nous délivrera de la condamnation qui aurait pu peser sur nous et il accordera à chacun la place qui lui reviendra, la meilleure pour chacun, celle qu'il aura choisie dans sa miséricorde. Et puis, le jugement, c'est surtout le jugement du roi des rois, le jugement du Fils de l'homme, qui révélera dans toute sa splendeur ce qu'il a été et ce qu'il restera toujours pour nous. Jésus a perdu sa vie, il a souffert, il est mort et il est ressuscité pour notre salut, pour nous, maintenant et toujours. Jésus ne veut être que le Sauveur pour nous, maintenant et toujours. Frères et sœurs, c'est dans ce but qu'il est venu, c'est dans ce but qu'il est allé à Jérusalem, qu'il est mort et ressuscité. Amen. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec notre indignité. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec notre espérance. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, dans la confiance. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour chacun de nous. Dans tout ce que tu as fait, Jésus, tu as révélé l'amour, la miséricorde du Père. Nous nous tournons vers toi dans la foi, Seigneur, parce que c'est toi seul qui es notre Sauveur. Amen. Thank you.